9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Voix au chapitre, c'est l'actualité culturelle, de la littérature, du théâtre, de la musique, de l'art. Un rendez-vous pour vous donner envie de tout cela. Quatrième saison de Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver, de vous remercier de votre fidélité hebdomadaire. Voix au chapitre, c'est aussi en rediffusion, un soir de la semaine et en podcast, bien entendu. Bonjour Kaouta Ademi.
Bonjour.
Merci d'être venu pour cette première émission. C'est la rentrée littéraire, comme on dit dans le jargon professionnel. Le plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois, pour votre livre qui vient de paraître, Au vent mauvais, c'est un roman. Il est paru au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Alors Kaouta Ademi, vous présentez à nouveau, vous êtes autrice et vous avez publié de nombreux ouvrages, L'envers des autres, chez Actes Sud, qui paraît ensuite au Point, Des pierres dans ma poche, paru au Seuil, Nos richesses, paru au Seuil aussi en 2017, qui paraît ensuite dans la collection Point. Un mot sur Nos richesses, nous l'avons beaucoup aimé à Beurre FM, puisqu'il a obtenu le prix Beurre FM Méditerranée TV 5 Monde, et c'est un grand honneur de vous recevoir aussi à l'Hôtel de Ville de Paris ce jour-là pour la remise du prix dans le cadre du Maghreb des livres, c'était en 2018 donc. Les Petits de décembre, c'est aussi l'avant-dernier livre que vous avez sorti au Seuil. En tout cas, une fidélité à vous accueillir, à vous recevoir pour parler de votre littérature. Et ce titre, Au vent mauvais, est un livre important dans cette rentrée littéraire. Près de 450 livres sont sur les étals des librairies, de nombreux festivals, salons du livre. Et vous allez beaucoup vous déplacer et vous nous faites plaisir en étant ce dimanche matin à Beurre FM. Au vent mauvais, donc. Trois destins, des petites histoires dans la grande histoire. Leïla, Tarek, Saïd, pour les nommer, sont trois jeunes qui vivent dans l'Est algérien, dans un village qui s'appelle El Zora. Et leur vie se mêle dans une histoire amicale, une histoire dans la grande histoire, justement. Ils vont se rencontrer. Leïla, on va pas tout raconter le livre, je vous rassure tout de suite. Kaouta Ademi, mais faut donner envie de lire, je le rappelais, et vous dire que parler d'eux, Leïla, elle est jeune mariée, et mariage qu'elle n'a pas choisi, évidemment, dans cette époque. On va rappeler que l'histoire se situe en 1920, en Algérie. Tarek est berger. Et l'autre ami, Saïd, lui, il n'est pas de cette famille plutôt pauvre que celle de Tarek et Leïla, plutôt une famille moyennement aisée, je crois. Et lui est hors du champ rural, puisqu'il va être un peu, il va sortir de là en étant écrivain plus tard, et on aura l'occasion d'y revenir. Donc ces trois personnages, tout au long du livre, vont être présentés par chapitre dans leur histoire, où on avance dans leur vie. Et puis à leur vie singulière, et puis à la vie de l'histoire avec un grand H, je l'ai dit, donc ce que traverse l'Algérie dans les premiers conflits, dans le deuxième conflit mondial, 39-45, plus tard dans la guerre de libération, on l'appellera ainsi, vous vous en doutez, aujourd'hui, et qui va voir traverser la vie de ces trois personnages, puisqu'on est dans un roman, une fiction, ce sont des personnages, tiré peut-être du réel ou de votre imaginaire, ça s'appelle la fiction. Et la première question avant d'entrer dans l'histoire et poursuivre cette histoire de ces trois personnages, comment vous vient l'idée toujours? J'ai le sentiment que toujours dans votre littérature, Kaouta Ademi, on retrouve de l'actualité et de l'histoire. On le retrouvait dans Nos richesses avec l'histoire de cette grande librairie à Alger. On le retrouve dans Les enfants de décembre. Voilà, c'est un conducteur pour vous ?
Il y a un va-et-vient, en tout cas, entre la réalité et la fiction, c'est certain. À vrai dire, ce va-et-vient existe depuis toujours pour moi. Mon premier roman est un espèce de patchwork de conversations entendues à l'université, dans ce qu'on appelle le COUS, qui sont des bus pour les étudiants en Algérie et que je prenais beaucoup pour me déplacer. Des pierres dans ma poche aussi, puisque c'était là une rencontre que j'avais faite avec une vieille dame qui vivait dans la rue, dans le 9e arrondissement à Paris. Et évidemment, Nos richesses et Les petites décembre, le lien avec la réalité personnalité est encore plus fort, hein, puisque Nourri Chaise, une partie en tout cas, s'est intéressée au personnage d'Edmond Charlot qui a réellement existé, et surtout à la librairie rue Charras à Alger. Au vent mauvais, c'est une fiction, vous avez raison de le souligner. Ce sont des personnages, là encore, que j'ai imaginés, en partie du moins. Ensuite, il y a quand même, à la base, une histoire à moitié vraie, disons, comme une légende urbaine, comme un secret, comme une histoire qu'on se raconte de génération en génération, dans la famille, etc. Et tout est parti de là, d'un livre que j'ai moi-même lu, qui était une histoire qui se passe le temps d'un été, dans les années 70. C'est une histoire tout à fait, qui ne me concernait en rien, mais c'est une histoire voilà, assez brève, qui se passe le temps d'un été. Mais il s'avère qu'elle se passe dans un village qui est nommé, que je connais très bien, pour y avoir passé beaucoup de temps, et que les personnages qui ont été nommés dans ce bref roman, cette espèce d'été raconté, leur prénom, leur identité, m'a rappelé l'identité de mes grands-parents. Et donc j'ai découvert que mes grands-parents avaient été en quelque sorte transformés en personnages de fiction il y a plusieurs années. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que je découvre cette histoire au moment où moi-même je suis en train d'écrire pour la première fois, je suis en train d'écrire mon premier roman, donc ça fait déjà une quinzaine d'années. Et depuis 15 ans, cette histoire est là, elle m'accompagne. Et il fallait avoir le bon moment pour l'écrire. Et je pense que là, c'était le bon moment pour écrire ce roman, ce vent mauvais. D'autant que quand j'écris Nos richesses, l'histoire d'Edmond Charlot, qui est une histoire très lumineuse, très belle que celle d'Edmond Charlot, qui a choisi, malgré tous les aléas de l'histoire, la littérature comme boussole, la littérature comme façon de vivre, la littérature comme idéal de vie. Ça m'avait, à ce moment-là, je savais que bientôt il allait être temps de raconter ce vent mauvais que peut être parfois la littérature lorsqu'elle bouscule les personnes et lorsqu'elle transforme les personnes en personnages. Et voilà, il fallait encore un peu de temps. Donc il y a eu les petites décembre entre les deux et puis ce vent mauvais.
Au vent mauvais, on pense à Baudelaire évidemment.
On pense à Baudelaire.
Un intérêt pour Baudelaire, pour vous, Kaoutardimi ?
Un intérêt pour la poésie.
Sur cette poésie-là en particulier ?
Oui, un intérêt pour la poésie, de toute façon, qui est quand même un art, pour moi, assez ambigu, parce que j'adore la poésie, je suis tout à fait incapable d'écrire.
Ah, j'allais vous demander ?
J'ai publié un poème, je ne dirai jamais où, je ne dirai jamais quand, je ne dirai jamais le titre, car je n'en suis pas particulièrement fière, et que je ne suis pas une grande poétesse. Mais oui, il y a un intérêt pour la poésie et puis je trouvais que ce vers-là en particulier allait pouvoir être un formidable titre à ce roman parce que tout le roman est autour de cela, de cette espèce de vent qui arrive du sud au début du livre et qui va planer comme une ombre au-dessus du couple tout au long du récit. Et puis cette ombre qui est aussi Saïd, hein, l'ami, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de couple. On l'a beaucoup dit, mais c'est aussi une histoire d'amitié trahie, donc de trahison entre deux amis.
Dans la nuit du 22 septembre 1972, un vent mauvais arriva du Sahara et recouvrit Alger d'une poussière rouge qui se déposa sur les façades des immeubles, les toits des voitures, les feuilles des palmiers et les parasols des plages. Au petit matin, toute la capitale algérienne était teintée de cette étrange couleur et les écoliers s'amusaient à dessiner avec leur index des soleils sur les vitres poussiéreuses, des automobiles garées un peu partout, tandis que leurs aînés y inscrivaient des mots obscènes. À la radio, un spécialiste affirma que ce sable contenait des traces des essais nucléaires effectués par la France moins de 10 ans auparavant. Beaucoup d'auditeurs tournèrent le bouton à la recherche d'une autre station, espérant y trouver de la musique ou une émission de divertissement. C'est juste les quelques lignes d'ouverture du livre. Hein, je vous donnerai d'autres petits courts extraits comme ça pour vous donner envie de lire le livre. Kaoutardimi, l'invité de Beurre FM ce dimanche matin. Au vent mauvais, donc le destin de trois personnages, on l'a dit. Alors on va s'arrêter sur les trois. On va parler de Leïla. Allez. Puisque c'est Leïla qui ouvre, il me semble, hein.
Quasiment.
Voilà, le livre. Leïla est une jeune femme.
Alors non, la première partie c'est Tarek, mais on parle beaucoup de Leïla.
C'est Tarek, voilà, on parle, voilà, partie. C'est ça.
Puis la deuxième c'est Leïla.
Donc on est, parce que les comme ils s'emboîtent les uns les autres, Tarek, Leïla et Saïd, voilà. Tarek va parler de Leïla,
on peut
Leïla,
de Leïla,
etc.
En premier, ça me va très
alors
bien.
Voilà, on parle de Leïla et on raconte qui elle est, cette jeune femme. Mariée.
Ils grandissent tous les trois dans un petit village.
Dans ce village, les
Aurores. Dans les années 20, début du 20e siècle, à l'est du pays. Et Leïla, donc Tarek et Saïd sont copains, ils sortent souvent s'amuser. Leïla fuit la maison familiale, elle s'enfuit de la fenêtre. Et dans le roman, je dis un jour, elle n'a plus sauté par la fenêtre parce qu'elle a grandi, que c'est devenu une jeune fille. Alors, jeune fille est tout à fait relatif, hein, puisqu'on considère qu'à partir de 12-13 ans, c'est une jeune fille, qu'elle peut être mariée. Et donc, elle ne rejoint plus les deux garçons qui sont ses amis, ses camarades de jeu. Elle est cantonnée à la maison et aux tâches ménagères, à la cuisine, etc. On essaye d'en faire une épouse, une future épouse. Et elle est mariée, très jeune, à un ami de son père. Et ça devrait être là la trajectoire de Leïla, mais ça ne va pas l'être parce que Leïla se révolte, elle tombe enceinte tout de suite, mais dès qu'elle a son enfant, elle se révolte et elle a cet acte, ce geste assez fou pour l'époque. Elle quitte son mari en prenant son fils avec elle et elle est ostracisée par tout le village, en dehors de Tarek et de Saïd.
Leïla, donc, on va la découvrir tout au long du livre. Alors effectivement, le livre, après cette poussière et ce vent mauvais au début, il y a l'histoire du berger, Tarek est le berger, et ensuite on voit Leïla et les histoires vont s'emboîter comme je le disais. Et après, il va y avoir Saïd, et après il va y avoir d'autres personnages qui vont être, mais les trois personnages étant les principaux, c'est eux dont on va beaucoup parler, et puis de cette grande histoire aussi qui va comme ça s'intégrer dans les chapitres. On va parler de ce temps, de la grande histoire que vous intégrez dans les chapitres. Il va commencer quand? Quand est-ce que va commencer la grande histoire pour eux trois?
Alors la grande histoire, elle, plutôt qu'elle ne commence, elle les cabosse en vérité. Elle les cabosse parce que Tarek, il va se retrouver pris dans la grande histoire malgré lui. Il rentre avec son troupeau de bergers. Il pense à Leïla, il est amoureux de Leïla, évidemment, mais Leïla vient de quitter son mari, etc. Tarek, il est embarqué par un camion de militaires. C'est l'armée française qui vient.
Parce qu'on a besoin d'hommes.
Des hommes pour aller sur le front. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et il est embarqué, il l'a emmené comme ça, réellement, sur un chemin en Europe. Et il va vivre toute la Seconde Guerre mondiale, et notamment les camps. En France, et on ne sait pas trop où et quoi, parce que de cette histoire-là, il ne dira jamais rien. Mmh. Ça, c'est une vraie histoire. Mon grand-père a été embarqué ainsi, en rentrant chez lui, emmené dans un camion comme ça, et emmené en Europe, hein, du jour au lendemain, depuis son village. Et mon grand-père a appris l'allemand dans les camps. Mais c'était très étonnant pour moi, parce que longtemps, je n'ai pas remis en question le fait qu'il connaisse de l'allemand. Mon grand-père n'est jamais allé à l'école. Il parlait arabe, français, parce qu'il a travaillé en France. Et il parlait allemand. Mais sans jamais, parce que c'est la famille qu'on a toujours connu ça, ce n'est qu'à l'âge adulte que je me suis dit, mais pourquoi parlait-il allemand? Et il avait appris l'allemand, mais il me disait parfois des mots en allemand très durs, des ordres souvent d'ailleurs, c'est ce qu'il connaissait. Et j'avais choisi de l'allemand au lycée en langue étrangère, justement parce que mon grand-père parlait allemand, et que du coup ça crée une espèce de lien, une connivence, qui pour lui était plutôt une connivence assez douloureuse. Mais ce dont je n'avais pas vraiment idée, moi, aussi jeune, mais aujourd'hui ça me semble complètement fou, que mon grand-père, avec le parcours qu'il a eu, c'est-à-dire un parcours assez classique pour tout Algérien né au début du XXe siècle, quelqu'un qui ne va pas à l'école, quelqu'un qui travaille assez dur, qu'il ait pu connaître autant de langues au final, et cette langue-là en particulier.
Donc Leïla, Tarek et Saïd, les chemins se croisent et plutôt que se croiser, j'ai presque envie de dire, ils s'arrêtent. Ils font pas que se croiser, parce que quand on dit se croiser, on a tendance à dire voilà,
on
fait passer, mais ils sont l'ossature de leur vie à chacun quand même.
C'est ça, les rencontres sont très importantes. À chaque fois qu'ils se croisent, c'est des moments très intense, c'est des moments importants, c'est des moments où il se passe des choses.
C'est des étapes de leur vie essentielles.
Quand Saïd et Tarek se retrouvent, parce que Saïd va vivre un peu en Tunisie où il va faire des études, Saïd est fils d'imam. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très riches financièrement, mais en tout cas, il a accès à un peu plus d'éducation que Tarek. Donc, il va se retrouver, ils vont se revoir. Saïd revient pour des vacances village, et ils vont se croiser au moment où Tarek se fait embarquer par ce camion. Et puis se perdent de vue plusieurs années jusqu'à la fin de la guerre où ils se retrouvent.
Et ils vont se retrouver.
En France, à Versailles.
Et nous, on va les retrouver dans un instant, puisque je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kaouter Hadimi, qui vient de paraître son livre Au vent mauvais. C'est sorti aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kaouter Hadimi, autrice. Le titre de son livre qui vient de paraître s'appelle Au vent mauvais. Il est paru aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Je rappelle que dans ce livre, on y rencontre Leïla, Tarek et Saïd qui grandissent dans un village de l'Est algérien, El Zora. Mais il y a aussi d'autres personnages. Un mot sur les autres personnages si vous le voulez bien.
Alors oui, effectivement, il y a d'autres personnages. Il y a d'abord un personnage assez important, notamment sur la première partie, mais pas que. C'est quelqu'un qui est là du début à la fin. C'est le personnage de cette vieille dame.
La potière.
La potière qui va être une espèce presque de mère de substitution pour Tarek, dont la mère est vivante, hein, au moins au début du roman, mais qui est muette et donc qui ne peut parler avec Tarek. Et c'est comme si ce personnage de potière va prendre le relais.
Remplace, voilà.
Oui, voilà, et va parler pour elle. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a une place très particulière dans le village. Elle connaît les secrets de tout le monde. C'est elle qui accouche les femmes. C'est elle qui rentre dans l'intimité donc des familles. Les sages ont peur d'elle. C'est aussi une protectrice. C'est elle qui va protéger Leïla quand Leïla va quitter son mari. C'est elle qui va la protéger de la méchanceté du village, mais aussi de ce que les sages ont comme projet pour elle. C'est elle qui va aussi, par moments, pousser Tarek à sortir un petit peu de sa relation avec Saïd, à le pousser aussi à exister au-delà de Saïd, parce que Tarek aime beaucoup Saïd. C'est son meilleur ami, c'est son frère de lait, c'est quelqu'un qu'il admire, c'est quelqu'un qui est très différent de lui, qui est fantasque, qui est plus libre, qui voit les choses en grand, là où lui les voit plutôt avec beaucoup de sérieux. Il n'a qu'un seul coup de folie tout au courant de sa vie, hein. C'est le départ en Italie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quelqu'un de très réservé, c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise avec les mots, les discours, etc.
Leïla, à quelques jours du Nouvel An en 1939, alors qu'elle rentrait chez lui, Tarek aperçut Leïla adossée au portail de la maison biscornue de Safia, cette dame, cette potière. La nuit venait de tomber, le village était plongé dans le noir, de telle sorte que Tarek dut s'approcher pour s'assurer que ses yeux ne lui mentaient pas, c'était bien Leïla. Elle était là, les cheveux lâchés, séparés comme à son habitude par une raie au milieu. Elle portait sous un manteau gris une robe rose entièrement plissée, dont le col était fermé avec un ruban noir, et tenait dans les bras bien serrés contre elle son fils âgé de 3 mois, emmitouflé dans une couverture en laine. Un léger voile bleu était posé sur son épaule. Tarek remarqua à ses pieds un sac en toile qui contenait des vêtements. Leïla sursauta en entendant le pas du berger, la main crispée sur son bébé, prête à bondir, ou à fuir, ou au contraire peut-être à s'effondrer, mais elle le reconnut et les traits de son visage se détendirent. Tarek s'arrêta bouche bée. La jeune mère et le bébé étaient toujours là, à l'endroit où ils l'avaient laissé, où Tarek les avait laissés, mais à présent, Leïla allaitait son fils, le sein couvert par le voile bleu. Intimidé, le jeune homme n'osa pas s'approcher, et Safia, qu'elle avait retrouvée au cimetière, le bouscula un peu en passant devant lui. Elle fit entrer la mère et son fils, sans rien leur demander, et referma la porte derrière elle. Tarek l'entendit tirer le verrou. Il rentra chez lui à pas lents, chamboulé par cette soirée. Le soir même, sa mère lui apprit que Leïla était de retour chez ses parents avec son fils et avait quitté son mari. Voilà, en quelques lectures, extraits. Le départ de Leïla et votre plume aussi, pour le dire aussi avec force aussi. Quand elle, un peu plus loin, je lis, les jours qui suivirent Les jours qui suivirent, tout le village ne parla que de cela, de Leïla qui avait osé quitter son mari. Tarek vit les visages des hommes s'assombrir et fut témoin de cette rage. Les hommes fixaient Leïla avec insistance, mais jamais Tarek ne la vit flancher, rendre un regard ou baisser la tête. Ses yeux à elle ne disaient rien. Il n'y avait pas d'hostilité, pas de tristesse, pas de regret. Elle était déterminée, Leïla, à quitter ce mari à s'émanciper quelque part.
Oui, alors c'est la première étape de son émancipation, plutôt de la recherche d'une vie différente, en tout cas. Entre les deux extraits, elle dit cette phrase, enfin, Tarek, lui, quand il la trouve comme ça devant la maison, assise avec ce sac, les vêtements qu'il voit dans le sac, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là et où est ton mari? Et elle a cette réponse. Oui, de dire pourquoi on me vend toujours et mon mari, comme si je ne pouvais pas vivre.
Comme si je n'avais pas deux jambes.
Que je n'avais pas deux jambes et que je ne pouvais pas exister, en fait, sans un homme pour me tenir. Et je trouve que ça dit déjà beaucoup de ce caractère de Leïla, de cette jeune femme. Et ce n'est que la première étape, puisque toute la deuxième partie du roman va se concentrer sur Leïla et raconter comment elle va. A décidé d'apprendre à lire maintenant que ses enfants sont grands, maintenant qu'eux-mêmes vivent une vie qu'elle n'a pas connue, parce que ses filles vont vivre des vies... ses filles grandissent dans les années 70, donc c'est l'Algérie indépendante, c'est l'Algérie du panafricain, c'est l'Algérie des premières années post-indépendance. Et elle dit ses filles vont vivre une vie qu'elle n'a jamais vécu, n'a jamais connu, dont elle n'aurait jamais pu rêver. Et donc, à ce moment-là, quelque chose se transforme encore plus chez Leïla. Mais ce premier acte, ce départ, quitter son mari à cette époque-là, c'est déjà
exceptionnel,
un geste extrêmement fort. C'est un geste très fort qui dit beaucoup de choses de ce personnage-là.
On va continuer avec les rencontres avec Tarek et Saïd et cette grande histoire dont on a pas encore ou peu parler. La grande histoire, c'est, je le rappelle, le livre commence, on est au début des années 1920, il y a la Grande Guerre, effectivement Tarek va être embarqué dans cette Grande Guerre, un peu plus tard ils vont se retrouver, la guerre va les retrouver, et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie aussi de parler de 39-45 dans cette histoire, dans l'histoire de l'Algérie, plus tard on verra qu'il y a eu la guerre de libération, tout ça, donc parlez-nous un peu de l'histoire, de la grande histoire avec ces personnages, c'est important.
Alors oui, c'est important parce que le roman se passe pendant le XXe siècle et que donc c'est un siècle mouvementé. Hein, c'est vraiment même un euphémisme. Hein. On a trois guerres au XXe siècle, en tout cas quand on est en Algérie. On a la guerre d'Algérie, on a la Seconde Guerre mondiale et on a la guerre civile. Donc c'est trois guerres. Ce sont trois guerres que vont vivre Tarek et Leïla. Mais j'avais envie d'un roman dans l'histoire, en tout cas la grande histoire, venait balloter ces personnages. J'aime beaucoup ce mot balloter parce que c'est vraiment ça.
Il y a des déplacements.
Il y a des déplacements et puis c'est presque comme une vague qui emporte sans cesse, qui ramène, qui emporte des personnages qui ne peuvent rien contre la grande histoire. Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ce sont des événements dont on ne peut pas se débarrasser, on ne peut pas faire semblant qu'ils ne sont pas là. Le colonialisme est là, les camps sont là, la Seconde Guerre mondiale est là. Et puis, il en va de même pour le terrorisme. Le terrorisme s'installe tout doucement dans les quartiers, prend de plus en plus de place. On découvre que l'islamisme intégrisme est là et ça va être une nouvelle guerre. Et ces personnages-là, ils vont essayer d'exister. C'est pas un roman d'histoire, hein, je le dis tout de suite.
Non,
c'est
pas
un roman historique, hein, pas du tout. C'est plutôt comment des personnages vont évoluer dans la grande histoire du XXe siècle entre l'Algérie et la France. Et après, j'avais déjà beaucoup parlé hein, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie. Alors, c'était par des chapitres très brefs, mais des chapitres assez incarnés. J'avais utilisé le « nous » dans « Nos richesses ». Je n'avais pas le souhait de refaire la même chose, plutôt de travailler différemment pour ce roman-là. Et c'est pour ça que je suis toujours allée chercher des histoires un peu presque en marge, inconnues. La Seconde Guerre mondiale, je ne raconte pas la Seconde Guerre mondiale, et puis ce n'était pas envisageable pour moi de raconter la Seconde Guerre mondiale en trois pages, quoi, et ce n'était pas le propos du roman. Donc je raconte plutôt le retour des camps, le retour des hommes à Versailles, comment ils arrivent cette histoire absolument folle, inconnue. Mmh. Enfin, moi, je suis allée, du coup, fouiller les archives. J'ai eu accès aux archives départementales, aux archives de la police et du ministère de l'Intérieur dans les années 40. Et c'est quelque chose d'effroyable que ces archives-là, et lire les correspondances entre le ministère de l'Intérieur et la police en 44, qui parle de ces soldats nord-africains qui sont à Versailles pendant quelques mois, et comment est-ce qu'on fait pour gérer ces hommes-là qui vivent dans des conditions épouvantables, dorment sur de la paille, il y a un robinet d'eau pour des centaines de soldats, et puis petit à petit Versailles va commencer à prendre toute une série d'arrêtés contre ces hommes-là. Ils n'ont plus le droit d'aller au cinéma, ils n'ont pas le droit d'aller au café, ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Il va y avoir mille et une choses qui sont faites dans la ville pour que ces soldats n'apparaissent plus dans l'espace public jusqu'à ce que se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire des centaines d'hommes de plus en plus restreints dans leur liberté, de plus en plus montrés du doigt, mal accueillis, mal accompagnés, qui mangent mal, etc. Il y a une mutinerie, ils se révoltent après l'arrestation de trois d'entre eux et ils exigent un échange de prisonniers puisque eux vont attaquer la gendarmerie. Et ça, c'est déjà un fait assez fou de se dire qu'en décembre 1944, la ville de Versailles, pendant quelques heures, a été le théâtre d'une mutinerie, encerclée par des soldats nord-africains. Ils arrivent à obtenir l'échange des prisonniers et puis ils se font tous expulser dans leur pays d'origine, ce qu'ils demandaient depuis des mois, puisqu'ils ont quitté leur pays par envie mais par obligation. Ils ont rejoint l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vu leur famille et leur pays pendant 2 ans, 3 ans parfois. Et suite à cette mutinerie, le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie se mettent d'accord vraiment, c'est-à-dire pour organiser une rafle, et c'est le mot qu'ils utilisent, qui est un mot extraordinaire, parce qu'ils utilisent le mot rafle en décembre 1944, la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, et décident qu'ils vont mener une rafle dans les endroits où ils savent qu'ils vont trouver des Nord-Africains, et qu'ils vont arrêter des Nord-Africains qui n'ont rien à voir avec cette mutinerie, et ils le savent parfaitement. Et la rafle passée, ils font cette rafle, il y a un courrier que j'ai pu consulter où ils se réjouissent, ils disent que ça s'est très bien passé, qu'évidemment ces gens-là n'ont rien à voir avec la mutinerie, qu'ils n'ont pas arrêté des soldats, ils ont arrêté des femmes et des hommes, mais que cela a permis de rehausser le prestige de la gendarmerie et que ce serait une bonne idée que de le refaire de temps en temps, au moins une autre fois. Mmh. Et ça, je trouve que, vous savez, quand on parle des violences policières à l'égard des Nord-Africains, on évoque souvent octobre 61. Mais en fait, on voit là, dans ce fait qui est inconnu, qui, moi, je l'ai vraiment retrouvé parce que j'ai lu un article d'un universitaire qui parlait plutôt, lui, de la partie retour des hommes du combat. Et en cherchant, j'ai vu que personne ne parlait de cette histoire de Versailles. Donc, je suis allée consulter les archives et j'ai retrouvé cette histoire de rafle. Et je me suis dit, souvent on date un peu, enfin on sait qu'il y a eu des violences policières, des violences racistes depuis très longtemps, mais souvent on parle effectivement d'octobre 61, mais là on voit que déjà...
On en a parlé octobre 61 parce qu'il y a eu des militants, des Algériens,
évidemment,
qui ont raconté l'histoire de ces Algériens jetés dans la Seine, sinon c'était sous le tapis, la France avait mis sous le tapis.
Ce que je veux dire, c'est que ces violences policières, elles sont beaucoup plus anciennes.
Bien sûr.
En décembre 44, on mène une rafle. Puis il y a quelque chose en plus qui revient beaucoup dans l'histoire de la colonisation, qui est on fait payer à ceux qui ressemblent des choses dont ils ne sont pas coupables. C'est-à-dire, là, il y a des soldats arabes et dans arabe, on met tout, tout ce qu'on veut, qui ont mené une mutinerie. Ben, on va aller punir d'autres arabes, là encore entre guillemets, c'est-à-dire des nord-africains, et tant pis s'ils n'ont rien à voir avec ça. Ce n'est pas ce qu'on doit faire dans un état de droit, ce n'est pas normal. Mais cette histoire m'a permis juste de me rendre compte qu'en décembre 44, on faisait déjà ça.
En vous entendant avec détermination, Kaouter Hadimi, parler de l'histoire, on voit bien que vous avez un intérêt à raconter de manière romanesque, c'est pas un roman historique, donc
non,
on est dans le roman, l'histoire qu'ont traversé ces hommes dans ce conflit en 44. On va vous retrouver pour la dernière partie de notre rencontre, Kaouter Hadimi, dans la période plus proche de l'Algérie. On parlait de la période de la guerre de libération, la bataille d'Alger notamment, qui est importante dans le livre, et aussi, le livre se termine, on va le rappeler quand même, sur les années 90, les années du terrorisme et de la terreur et de la violence. Peut-être qu'il y aura une suite, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, cette période-là de l'histoire, où s'intègrent nos personnages, hein, Tarek, Saïd et Leïla, leurs histoires singulières, c'est important de le souligner. Kaouter Adimi est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois pour cette rentrée littéraire Kaouter Adimi et nous parlons de Au vent mauvais, c'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Dans la collection Fiction et compagnie, nous avons présenté les trois personnages, Tarek, Saïd et Leïla, au travers leur vie singulière, mais aussi dans la grande histoire. Et on va continuer de s'arrêter sur ce temps de la grande histoire qui s'inscrit dans, voilà, qui s'intègre dans les chapitres de votre livre, Kaouter Adimi. Et on va arriver à la guerre de libération. Il va y avoir la guerre, chacune le sait. Et dans le chapitre qui est intéressant, le long chapitre, en tout cas le temps accordé à cette guerre de libération, en fait, c'est le souvenir cinématographique, si je puis dire, puisqu'il va s'agir de la mise en scène, de la réalisation du documentaire, du film, hein, du long film, du premier film sur la bataille d'Alger.
De Pontecorvo.
De Pontecorvo,
oui,
voilà.
Tout à fait. Alors, Pontecorvo et la bataille d'Alger, en tout cas, sont un peu un fil conducteur de la deuxième partie du roman. Tarek, qui cherche un travail après la guerre d'Algérie, doit, comme beaucoup d'hommes de l'époque, quitter le village, quitter les terres pour trouver un travail, donc soit en ville, soit en Europe. Il décide d'aller à Alger et de laisser sa famille au village. Et puis là, un peu par hasard, il va rejoindre le gigantesque tournage, hein, de la bataille d'Alger. Alors, il est régisseur, il est homme à tout faire, il est chauffeur, enfin, il va faire plein de choses sur ce
tournage. Il va être passionné, en tout cas, pour le faire.
Il va être passionné, mais surtout, en vérité, au début, il a surtout besoin d'argent et puis il se retrouve embarqué là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui est très taiseux, hein, comme on l'a dit au début, qui, du coup, va aussi avoir une espèce d'aura un peu mystérieuse, rassurante, etc. Et le tournage va beaucoup le... Ça va être un moment assez compliqué, au fond, hein. Le tournage en lui-même, des scènes de la bataille d'Alger, parce qu'il va revivre la bataille d'Alger,
à laquelle il a réellement
participé. Exactement. Et donc, de voir... Et il va prendre l'habitude d'écrire un petit peu dans son carnet et de voir, de revoir ce qui s'est passé, cette espèce de façade qu'on bombarde de nouveau... les paras qui arrivent dans la ville, la casbah où tout est filmé, parce que Pontecorvo a voulu filmer dans les vrais lieux de la bataille d'Alger. Il a voulu filmer caméra sur l'épaule. Enfin, ça a nécessité énormément de travail. On rappelle aussi que ce film, il est important, il est clé, mais aussi parce que il est très étonnant. Je veux dire, il a un seul acteur professionnel. Hein.
Ah tout oui, c'est que reste, des figurants, c'est tout toute la casbah.
Tous les acteurs qu'il a trouvés dans la rue, qui n'étaient pas des acteurs ou qui n'avaient pas vocation à devenir des acteurs, mais il est allé caster dans les marchés, dans les rues, etc. Mais ça donne un film, moi, je trouve exceptionnel, bouleversant. La musique est incroyable. C'est un film à voir ou à revoir, si on a eu la chance déjà de le voir. Et Pontecorvo va avoir finalement un impact assez important sur la vie de Tarek. Il va être, en tout cas, celui qui initie quelque chose dans l'histoire, à la fois l'écriture, mais aussi une capacité à voir les choses en un peu plus grand, élargir l'horizon de Tarek. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup amusée à imaginer un petit peu ce que fut ce tournage. Puis j'ai eu la chance, ils sont cités à la fin du livre, de voir des documentaires autour de la bataille d'Alger. Il y a des réalisateurs qui ont fait un travail exceptionnel pour retrouver parfois les acteurs de l'époque ou les parties prenantes de l'époque autour de ce film. Et je trouve que ça a été vraiment une vraie richesse pour moi.
On va poursuivre. On se disait hors antenne entre deux parties qu'on aura encore beaucoup à dire, et hélas le temps nous presse, mais quand même, pour avancer dans cette période histoire du livre, il y a aussi l'actualité qui était assez ancienne maintenant, puisque c'était ces années de terreur et du terrorisme. Là aussi, vous les évoquez dans la violence de ce qu'a traversé l'Algérie en général, et puis les personnages en particulier. Donc ils sont imprégnés de tout ça.
Oui, alors on n'en a pas parlé, alors c'est un peu l'élément déclencheur, je vais rien dévoiler parce que je le dis dès le début du roman, mais en fait Saïd qui disparaît de la vie de Tahar et Layla revient à travers la parution d'un roman qui parle de Saïd et de Tahar et de Layla. Ils sont nommés, le village est nommé. Et c'est vraiment un bouleversement pour ces deux personnes, ces deux donc personnages, personnes, qui ont l'impression que le roman de Saïd a aspiré leur vie, les a transformés en des personnages. Ils sont obligés de fuir le village parce que Saïd dévoile des choses sur Layla et sur Tahar. On ne sait pas trop quoi, mais ils sont forcés de...
Ils se sentent humiliés, trahis.
Trahis et humiliés. Et puis surtout, ils ont, Layla a l'impression... qu'on l'a dépossédée d'elle-même, que son corps a été raconté aux autres. C'est quelque chose d'épouvantable pour elle. C'est quelque chose... Elle est incapable de supporter ça. Elle est incapable de supporter de nouveau les regards de tout le village. Elle l'a connu quand elle a quitté son premier mari. Donc tout ça est trop dur. Ils quittent le village tous les deux. Ils emmènent leurs enfants et ils se retrouvent dans la ville. Et puis on les retrouve plus tard. C'est la deuxième partie du roman. C'est la partie de Layla. De Layla qui raconte comment elle essaye de dépasser ça, de dépasser la publication de ce roman. Mais en tout cas, ils sont revenus vivre. Ils sont allés vivre à Alger. Ils sont allés se cacher à Alger, la grande ville. Et c'est un moment clé parce que on arrive ensuite aux années 90. La guerre civile, le terrorisme. Moi, je me suis arrêtée à 92 parce que c'est le moment où le pays va vraiment basculer dans la terreur. C'est le moment où Boudiaf est assassiné par une personne de sa sécurité. C'est le moment où on sait que l'irrémédiable va avoir lieu, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas réussir à échapper à cette espèce de coup du sort, à cette espèce de malédiction. Et c'est la troisième guerre que vivent les personnages.
En tout cas, Layla, Tahar et Saïd... Chacun, chacune dans leur singularité sont des personnages forts quand même. Vous leur avez donné de la consistance dans leur. Il est hébergé, il va avoir cette ouverture grâce à effectivement le réalisateur. Saïd, il voulait être écrivain, il a été écrivain, mais bon, avec quelque chose assez particulier que vous avez évoqué. Et puis Layla qui prend sa route, quoi, aussi, ouais. Qui décide de prendre sa route. C'est important aussi de souligner ça.
Bien sûr, c'est un roman aussi
d'espoir, de femme.
Ce que fait Saïd, c'est une violence d'homme à l'égard d'une femme. Parce que Saïd, tout son propos, c'est de dire que lui est féministe et qu'il attend et que Layla n'aurait jamais dû se marier de nouveau. Qu'en se mariant, en fait, elle rate sa vie. Et donc, c'est un homme qui veut montrer à une femme qu'elle s'est trompée. Ce n'est jamais une bonne idée, je crois.
Et Tahar l'a épousée avec son enfant. Et Layla, a eu d'autres enfants avec elle.
Et d'autres enfants avec elle. Et Layla, pour elle, c'est insupportable. C'est vraiment quelque chose... C'est un homme qui, en faisant ça, va violer son corps, en fait. Ouais. Elle a vraiment cette impression-là de viol et de violence. Quelque chose qui est complètement dénaturé. Mais donc, c'est très long pour elle de se remettre de ça. Et le roman va aussi raconter ça, va raconter cette histoire de femme qui tente de se réapproprier son corps, qui tente de se réapproprier son être. Alors... c'est un viol métaphorique, hein. C'est vraiment un espèce de dévoilement du corps. Quant à Tahar, il va connaître une vie finalement tellement classique quand on regarde ça de près. En tout cas, ça aurait dû être une vie classique. Une vie d'homme qui va à la guerre, une vie d'homme qui ensuite va devenir ouvrier, qui va vivre dans un foyer d'ouvriers en région parisienne. Et puis, il y a ce coup de folie, cette espèce de chose incroyable qui lui arrive. Parce qu'il est victime, parce qu'il est frappé, alors qu'il veut aller voir le film La bataille d'Alger à Paris, le cinéma est saccagé et il est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et sur un coup de folie, le seul coup de folie de toute sa vie, il part à Rome. Ouais. Et donc il se retrouve à Rome à un moment où il n'aurait jamais pensé pouvoir aller là-bas, et il se retrouve gardien d'un lieu extraordinaire à Rome. Je n'en dirai pas plus parce que les chapitres romains sont vraiment des chapitres que j'ai voulu être des temps suspendus pour lui.
C'est des très très beaux passages.
C'est un moment différent pour lui, c'est un moment qu'il n'aurait pas dû vivre.
Un souffle d'apaisement.
Et à ce moment-là, il change de voie. Ouais. Dès lors qu'il décide de ce coup de folie, il n'est plus dans un schéma classique. Il a quitté la voie classique et il a emprunté un chemin totalement différent. Et alors, il a très peur au début de ce qu'il a fait. Et puis, finalement, c'est un temps de soin pour lui. C'est là où il va se soigner. Il va soigner ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre d'Algérie.
presque les mots de la fin, parce que notre rendez-vous se termine, mais c'est les mots d'une envie, en tout cas, de lire votre livre. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à lire Au vent mauvais, parce que c'est vraiment... Pardon ?
Il est en librairie.
Il est en librairie. Vous faites des rencontres dans certaines librairies. Il a déjà, on peut le dire, Kauter Hademi, une certaine ovation dans les milieux professionnels. Un prix prochainement.
Il est sélectionné pour plusieurs prix. Le prix Sommer, le prix Malraux et le prix Télérama France Culture.
Voilà. C'est dire la reconnaissance de votre écriture. Merci infiniment, Kauter Hademi, d'être venu nous présenter Au vent mauvais. Je le rappelle qu'il vient de sortir aux éditions du Seuil, et c'est un livre à ne pas manquer à lire au milieu des quelques centaines de livres qui sont parus. Celui-là est essentiel. Merci infiniment. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche pour Voix au chapitre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.